Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Vous le savez, ce mardi 4 juin marque le 30e anniversaire de la répression par les autorités chinoises du mouvement de Tiananmen. Celui-ci est dans tous vos journaux ce matin, mais qu'en est-il en Chine? Pour en parler, nous sommes en compagnie de François Bougon. Bonjour, vous êtes journaliste au Monde, fin spécialiste de la Chine. Vous avez notamment publié La Chine sous contrôle, Tiananmen 1989-2019. J'ai sous les yeux à la fois Libération, Le Figaro et puis le Financial Times avec en une Tiananmen. Que se passe-t-il en Chine au même moment?
D'un côté, il y a une profusion, et puis de l'autre côté, en tout cas en Chine, c'est plutôt la sécheresse, je dirais. C'est puisque on parlait du Soudan, de l'Afrique du Sud, du mémorial, de commission sur la vérité. Là, du côté de la Chine, il y a une journaliste qui s'appelle Louisa Lim, une journaliste américaine qui a mené une enquête sur ce qui s'était passé en juin à Chengdu, dans une des provinces chinoises. Et elle a eu ce titre, c'est la République populaire de l'amnésie. Et en fait, ça résume bien ce que c'est aujourd'hui Tiananmen en Chine, c'est-à-dire c'est l'amnésie imposée par le régime, puisque c'est un moment, c'est à la fois un moment fondateur, je pense, mais c'est aussi un moment très complexe, très difficile pour le régime, donc c'est un moment tabou.
Je vais vous poser une question scandaleuse, François Bougon. On sait qu'en France, on parle beaucoup de Tiananmen, on parle beaucoup de ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais en Chine, depuis 30 ans, la répression n'a fait que s'accroître. Est-ce que finalement, cet épisode, qui est extrêmement important pour nous, pour les Chinois, n'apparaît qu'un épisode dans la répression, mais peut-être pas le plus violent?
Alors, en tout cas, c'est une question qu'on peut considérer comme scandaleuse, la répression, il faut voir aussi ces différents moments depuis 89. Il y a eu des moments beaucoup plus libres entre guillemets, c'est-à-dire le mandat précédent avant Xi Jinping, il y a eu quand même des moments beaucoup plus faciles, en tout cas pour des historiens amateurs, pour essayer de creuser des épisodes historiques tabous, que ce soit la révolution culturelle, le grand bond en avant. Tiananmen, ça reste quand même un moment très très difficile. C'est le moment où le pouvoir a failli perdre la main. C'est le parti est divisé. Donc il y a une décision de se dire plus jamais ça. D'où c'est ce qui explique cette chape de plomb en fait. Après, ce qui est sûr, c'est que la Chine d'aujourd'hui n'est plus la Chine d'il y a 30 ans. Elle a évolué. Les gens se sont enrichis. Les villes se sont développées. Il n'y a plus les mêmes problématiques. Mais il y a des questions de fond qui restent.
Alors, la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a 30 ans. Que s'est-il passé entre-temps avec finalement une équation compliquée qui a été résolue à sa manière par Xi Jinping? On parlait du Soudan tout à l'heure. Il y a finalement deux constantes dans les dictatures, c'est la misère et l'injustice. Parfois, c'est les deux. Effectivement, parfois, c'est l'un ou l'autre. En Chine, il y a eu un développement économique sensible. Comment expliquez-vous cette solution à la chinoise?
La solution à la chinoise, elle s'explique par la décision juste au lendemain de la répression. Il y a des réunions entre hauts dirigeants. Et en fait, la leçon qui est tirée, c'est de dire il ne faut plus jamais revoir ce genre d'épisode. Il ne faut plus être divisé. Le parti a été divisé entre conservateurs et réformateurs et cela a permis aux manifestations de se développer. Donc plus jamais ça, il faut être uni. Donc ça, c'est la première leçon. C'est une leçon qui, en plus, a été d'une certaine manière encore plus renforcée par ce qui s'est passé en Union soviétique 2 ans après. Donc il y a le sentiment que la Chine est une forteresse assiégée et notamment les Américains veulent absolument faire en sorte que le parti perde le pouvoir. Et donc, la décision est prise, ça passe par une décision de stabilité. Et cette stabilité, elle passe par le développement économique. Et donc, tout est fait pour que la Chine se développe économiquement, puisque les hiérarques du Parti communiste savent que s'ils apportent les bienfaits économiques à la population, elle va pas forcément se rebeller.
C'est vrai ? C'est pas si vrai que ça, parce que si on prend ce qui s'est passé par exemple encore récemment à Hong Kong, on voit que le développement économique n'empêche pas les gens de se rebeller.
Alors vous avez, il y a toujours des manifestations en Chine, il y a toujours des manifestations d'ouvriers, des manifestations de citoyens par exemple sur des questions qui sont liées à l'environnement, ça existe tous les jours. Ce qui ne se produit pas en tout cas à l'heure actuelle, c'est une coalisation de tous ces mécontentements pour se transformer en un mouvement social, national, mondiale telle qu'on l'a vu au moment de Tiananmen. Donc, bien sûr qu'il y a encore des tensions sociales, la Chine n'échappe pas à ce genre de problème, mais en tout cas, le régime a su développer à la fois une idéologie, à la fois une manière aussi de traiter de manière sécuritaire. Il ne faut pas oublier que dans des provinces comme le Xinjiang, vous avez plus d'un million de personnes, selon les chiffres de l'ONU, qui se trouvent dans des camps de détention.
Et il faut rappeler la situation des Ouïghours au Xinjiang.
Alors, les Ouïghours, c'est une question sécuritaire très importante pour le régime chinois, puisqu'on est aux portes de l'Asie centrale. C'est une minorité turcophone musulmane, avec certains... Alors, selon les Chinois, il y a un développement de radicaux islamistes. Et donc, la Chine a décidé, il y a eu notamment en 2009, des affrontements très très violents à Urumqi, qui était la capitale provinciale. Et donc, c'est une sorte de laboratoire pour la Chine, c'est-à-dire un contrôle très 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 fort de la minorité ouïghour qui passe donc par le placement en détention et dans des camps de détention, de lavage de cerveau des ouïghours.
Et cela se fait dans une indifférence plutôt générale.
Oui, alors qu'est-ce que ça montre en fait ? Ça montre à quel point la Chine aujourd'hui est intégrée dans le système international. Ça montre à quel point la Chine est forte aujourd'hui. C'est plus la Chine d'il y a 30 ans. C'est plus la Chine qui se faisait tenser par les Occidentaux à l'époque où on montrait du doigt. Aujourd'hui, la Chine, bien sûr, est forte. Elle est un élément important de la communauté internationale.
Comment Xi Jinping s'y est-il pris pour réussir à maintenir une chape de plomb dans ce pays ? Pays évidemment immensément peuplé, François Bougon, mais aussi pays qui a dû maîtriser Internet, qui est partout ailleurs dans le monde. On parlait tout à l'heure du Soudan, un ferment de démocratie ou en tout cas de révolte.
Xi Jinping, il arrive à un moment un peu particulier pour le régime. C'est un moment de ce que je qualifierais un peu de difficulté et de questionnement. Il y a eu des divisions justement au sein du parti. Il y a eu un Bo Xilai qui a été un autre dirigeant important à défier Xi Jinping. Il y a eu le sentiment au sein du parti, chez certains, en tout cas chez ce qu'on appelle les fils d'eux, c'est-à-dire les héritiers, ils sont généralement comme on appelle les aristocrates rouges, leurs pères ont fait la révolution, et eux se sentent, et Xi Jinping se sent investi d'une mission, c'est-à-dire de faire en sorte que le parti reprenne la main. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi beaucoup le champ idéologique. Il est beaucoup dans la bataille des idées, avec une manière de reprendre la main sur le contrôle de la société. Et c'est pour ça que c'est un digne héritier de Tiananmen. C'est-à-dire que pour lui, la bataille des idées, la bataille culturelle est très importante pour contrôler la situation. Mao disait toujours qu'il y avait deux outils pour contrôler. C'était à la fois l'arme et puis aussi l'esprit, les idées. Et voilà, et Xi Jinping est un digne héritier de ça.
On compare beaucoup Mao et Xi Jinping. Est-ce légitime, François Bougon ?
On peut, puisque en fait il le cite énormément, il se situe dans le droit, la lignée de Mao. Après, ce qui est difficile, c'est que toujours avec ce genre d'analogie historique, c'est que la Chine de Mao et celle d'aujourd'hui n'est plus du tout la même. L'aura, le charisme qu'avait Mao, qui était presque un dieu en fait pour beaucoup de Chinois, Xi Jinping n'est pas considéré comme un dieu par les Chinois d'aujourd'hui.
Et on peut aussi, alors c'est toujours compliqué de faire des parallèles, mais la plupart des réformes économiques de Mao ont été des catastrophes. Xi Jinping, évidemment, brille bien différemment dans ce domaine-là.
Oui, alors après, les questions aussi se posent économiquement pour Xi Jinping. On le voit avec la guerre économique commerciale avec les États-Unis. Il a décidé de tout remettre sur un système public, un secteur public très fort, des champions nationaux très très forts. Pour changer de modèle économique. Est-ce que c'est la solution ? Ça, beaucoup de gens, moi je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais beaucoup de spécialistes de l'économie se posent cette question. Est-ce que la solution autoritaire que met en avant Xi Jinping est une solution pour pouvoir changer ce modèle chinois qui a fait ses preuves pendant 30 ans, mais qui arrive à bout de souffle en fait, en question de l'environnement, les questions de monter en valeur, etc. etc.
Donc, est-ce que, monter en valeur,
c'est-à-dire dans la chaîne de valeur de l'économie.
L'idée, c'est de capter de plus en plus
de par exemple de développer la haute technologie, c'est un plan qui s'appelle Made in China 2025, de faire en sorte que la Chine maîtrise une dizaine de technologies de pointe.
Et précisément dans ce développement, toujours si on fait la comparaison entre Mao et Xi Jinping, il y avait une idéologie première chez Mao. Chez Xi Jinping, il y a l'utilisation du terme de communisme. Qu'est-ce que ça signifie chez lui? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est vrai que c'est un... Quand on essaye de comprendre ce qu'est l'idéologie de Xi Jinping, c'est un peu compliqué parce que c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est à la fois des références à un maoïsme des années 50, un maoïsme qui serait purifié, qui serait beaucoup moins compromis avec les échecs, justement, avec le grand bond en avant, la révolution culturelle. Donc une remise en avant, par exemple, des héros communistes, un contrôle accru de l'histoire, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, très très peu d'historiens peuvent s'intéresser à des événements historiques liés au Parti communiste, puisqu'il y a une version officielle, c'est une sorte de roman national, si on veut dire. Et puis d'autre part, il y a un mélange entre... Et c'est pour ça que c'est un héritier de Tiananmen, c'est-à-dire que c'est un néo-autoritarisme, c'est sorte de marxisme-léninisme revu par un néo-autoritarisme avec une dose de nationalisme très très forte et puis des références à l'histoire impériale en fait. Donc vous avez ce mélange qui est un marxisme-léniniste qui a plus rien à voir avec celui de Mao, mais qui a toujours été le cas pour les Chinois. Les Chinois ont passé leur temps à adapter le marxisme-léninisme aux situations locales chinoises.
Xi Jinping, c'est aussi une famille.
Et c'est aussi une famille, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, c'est un aristocrate rouge. Son père a été l'un des premiers révolutionnaires dans le bastion du Nord-Ouest, ce bastion qui accueille Mao à l'issue de la Longue Marche. Donc en fait, c'est une figure très très importante, c'est une figure de héros d'une certaine manière, qui en plus a été limogé en 1962, qui a vécu en prison, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui a une relation particulière avec le Parti communiste.
Mais il a placé aussi sa fille, il a au poste clé des proches.
Et mais c'est en fait c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, si on veut essayer de comprendre ce qu'est le Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est un parti d'aristocrates. Il y a un groupe de dont je vous parlais, les fils d'eux d'aristocrates qui ont décidé que l'heure était venue pour eux de prendre en main le contrôle du parti. Le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, lui venait de la Ligue de la Jeunesse, donc il n'était pas de cette aristocratie. Et donc il y a vraiment cette idée chez eux qu'ils ont pour mission de faire en sorte que le parti qui a été créé par leur père soit toujours plus haut, plus fort, et puis qu'on arrive pour le centenaire du parti en 2021 et puis après pour le centenaire de la fondation de la République populaire en 2049 aux plus hautes places.
Mais alors ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas les accuser d'être désintéressés, ces hiérarques communistes.
Bah, c'est toujours la question en Chine, c'est-à-dire que vous avez à la fois des intérêts politiques et puis aussi des intérêts économiques. Le discours de la grande politique anticorruption de Xi Jinping est apprécié par une partie de la population. Après, la question se pose puisque en Chine, une grande partie de ceux qui bénéficient des intérêts économiques qui font partie de l'élite sont souvent des fils d'eux.
Mais on évalue la fortune personnelle de Xi Jinping à plusieurs millions. J'ai même vu des estimations plus hautes, plusieurs millions
de
dollars.
Alors ça, je sais pas si c'était plutôt... ça c'était Wen Jiabao, c'était le premier ministre précédent, ce qui lui a causé beaucoup de problèmes. Puis on s'est aperçu, oui, qu'il avait amassé une fortune considérable, surtout sa femme, en fait, et les enfants.
Là, c'est un cas réglé, mais si on prend par exemple les membres du Parti communiste chinois... j'ai vu passer des estimations qui sont tout à fait étonnantes.
C'est plutôt les familles. Alors les.
Quand on parle par exemple du clan Bouteflika pour l'Algérie, effectivement, ça n'est pas Bouteflika en tant que tel, c'est l'entourage. Mais on peut s'interroger sur ce type de comportement.
Oui. La différence, je ferai une différence par exemple avec l'Algérie, c'est que vous n'avez pas le côté prédateur. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, c'est une économie qui profite à une grande partie de la population. Et c'est pour ça aussi, c'est ce qui explique aussi la stabilité.
Mais ils se sont enrichis comment alors s'ils n'ont pas fait de la prédation?
C'est une
captation de la richesse nationale.
Oui, mais c'est un peu ce que vous pouvez retrouver dans des pays. C'est-à-dire le fait que vous ayez un pouvoir politique vous permet de faire bénéficier à votre famille ou à vos enfants, etc., d'accès à des positions économiques. On l'a vu avec des cabinets américains qui recrutaient les enfants des dirigeants du Parti communiste. Ça leur permet d'avoir accès au plus haut niveau.
Parce que dans ce contexte-là, on pourrait avoir une autre lecture de l'opération main propre de Xi Jinping qui consisterait à dire qu'il a trouvé des victimes expiatoires et que ça lui permet de camoufler la corruption d'un certain nombre de membres du régime qui sont les siens et qui donc ont le droit d'être enrichis,
oui, c'est
François
Bougon. C'est une des explications. Après, c'est vrai que l'ampleur de la campagne anticorruption montre quand même que c'est ça va au-delà de l'utilisation d'une campagne anticorruption pour se débarrasser des rivaux, en fait. Alors après, cette campagne anticorruption, elle concerne surtout souvent des cadres de niveau inférieur. Ça ne concerne pas surtout les gens qui sont autour de Xi Jinping, ça, c'est évident.
On a souvent souligné l'habileté politique de Xi Jinping, qui est considéré comme étant beaucoup plus brillant que Hu Jintao, son prédécesseur. Il a beaucoup lu, il cite souvent des auteurs chinois. Quel est son univers intellectuel, François Bougon?
Alors moi, je ne dirais pas qu'il est brillantissime. Il a fait l'université Tsinghua, mais à une époque qui n'était pas forcément c'était l'époque de la révolution culturelle. On dit beaucoup qu'il lit, mais alors ça c'est aussi beaucoup de la propagande. On ne sait pas réellement. Il a jamais vraiment, quand il a passé une grande partie de sa jeunesse à la campagne, il a jamais vraiment voyagé. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup influencé par cet univers dont je vous parlais des années 50, c'est-à-dire l'univers des héros communistes. Je pense que son père l'a beaucoup influencé aussi sur une espèce de fresque révolutionnaire. Et donc c'est vrai que beaucoup de gens ont été étonnés à son arrivée, puisque son père avait une image de réformateur aussi. C'est quelqu'un qui se serait opposé à la répression en 1989, donc après il est parti à la retraite. Et donc à son arrivée, Xi Jinping a bénéficié de cette image un peu de réformateur qu'avait son père, de quelqu'un de plutôt consensuel, en plus victime de Mao en 1962. Donc je crois que c'est ce qui explique aussi un peu l'incompréhension du départ. On a cru que Xi Jinping allait être un Gorbatchev. On a cru que c'est quelqu'un qui allait mener une réforme politique. Et en fait, pas du tout. Ça a été le contraire.
Et aujourd'hui, il a à peu près tous les leviers. Est-ce que l'on voit ce qui pourrait être un contre-pouvoir à cet homme dans les années à venir, François Bougon?
Pour l'instant, on ne voit aucun contre-pouvoir. Après, ce qui est difficile, c'est que le Parti communiste est une boîte noire. On a très très peu accès à des informations sur ce qui se passe.
On dit qu'il est contesté à l'intérieur.
Certains le disent sans avoir vraiment d'éléments de preuve, en fait. Mais plus vous êtes sur un régime autoritaire, plus de toute façon vous suscitez des oppositions.
Et ces oppositions, elles se fondent sur quoi? Sur quelle portion de sa politique? Qu'est-ce qui pourrait ne pas faire consensus au sein du Parti communiste chinois?
Ce qui pourrait ne pas faire consensus, par exemple, c'est la gestion des tensions avec les États-Unis, des tensions commerciales. C'est si jamais ça dégénère, si jamais la Chine doit souffrir encore plus économiquement, peut-être que des questions vont se poser au sein du parti, ça c'est évident. Et puis, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est comment toutes les jeunes générations au sein du Parti communiste, souvent des gens qui sont justement, ont étudié à l'étranger, ont peut-être d'autres modèles en tête, vont réagir.
Ce qui veut dire que les questions politiques, elles, ne font pas discussion, en tout cas dans la perspective de ce 30e anniversaire de la répression par les autorités chinoises du mouvement de Tiananmen. François Bougon, vous avez notamment publié Dans la tête de Xi Jinping, on va évoquer ce qui s'est produit à Tiananmen et les répercussions actuelles de cet événement en compagnie d'Anne Kerlan, elle est directrice de recherche au CNRS, et de Jean-Luc Domenac, il est directeur de recherche au CERI. Nous rejoindrons dans une quinzaine de minutes. Et nous marquons aujourd'hui les 30 ans de la répression sanglante de Tiananmen en consacrant notre émission à la situation des droits de l'homme dans le pays le plus peuplé du monde. En compagnie de François Bougon, vous êtes journaliste au Monde, vous avez notamment publié La Chine sous contrôle, Tiananmen 1989-2019 aux éditions du Seuil. À côté de vous, Jean-Luc Domnac, bonjour, vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po et spécialiste de la Chine. Et Anne Kerlan, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de recherche, auteure de Lin Zhao, combattante de la liberté, publiée en 2018 chez Fayard. Que s'est-il passé à Tiananmen? Pourquoi cet événement est-il aussi important pour la compréhension de la Chine contemporaine, Anne Kerlan?
À Tiananmen, en mai-juin 1989, il s'est passé deux choses inédites pour le régime communiste chinois. D'abord, une immense manifestation populaire spontanée. C'était la première fois depuis l'arrivée des communistes au pouvoir que le peuple descendait dans la rue spontanément et pas à l'occasion d'un mouvement voulu par le pouvoir. Et puis ce peuple, et notamment les étudiants, sont restés. Ils sont restés plusieurs semaines sur la place Tiananmen. Et puis par ailleurs, tout aussi inédit et tragique, l'intervention de l'armée dite du peuple, justement, qui, pour la première fois depuis 1949, a tiré sur ce peuple.
Quelles étaient les revendications des manifestants à l'époque ?
Elles étaient, on pourrait dire, très simples. C'était plus de liberté, plus de démocratie, dans un contexte qui était à l'époque un contexte qu'on pouvait dire d'ouverture après la période très dure maoïste. Mao étant mort en 1976, il y avait depuis 1976 ce qu'on pourrait appeler un dégel. Et les étudiants en particulier s'inscrivaient dans cette espérance d'un dégel qui pourrait aller jusqu'à un dégel politique.
Et les revendications économiques étaient-elles présentes également à Tiananmen ?
Alors, elles étaient présentes au sens où elles faisaient partie, on va dire, de cette volonté. Mais avant tout, beaucoup d'étudiants disaient « Nous, ce qu'on veut, c'est plus de liberté ». D'ailleurs, le symbole, ça a été cette fameuse statue de la liberté qu'ils ont érigée sur la place.
Pourquoi le pouvoir a-t-il décidé de cette répression sanglante ? Y a-t-il eu des débats à l'époque au sein du Parti communiste chinois ?
Énormément de débats et la décision a été contestée en interne aussi bien par les politiques que par les militaires. On a aujourd'hui de plus en plus de témoignages. J'ai encore lu très récemment le témoignage d'une ancienne militaire qui raconte comment au plus haut niveau de la hiérarchie, il y a eu des messages demandant que l'armée n'intervienne pas, que le pouvoir ne donne pas l'ordre d'intervenir.
Quels étaient les différents camps en présence ? Anne Kerlan, qu'est-ce qui finalement faisait débat ? Est-ce que le pouvoir a véritablement vacillé à l'époque ?
Alors il y avait, on va dire, d'un côté le camp des conservateurs, ceux qui justement craignaient que le pouvoir leur échappe et craignaient surtout qu'on aille un petit peu trop loin dans le dégel, dans les avancées politiques. Et puis il y avait le camp des réformateurs, et ce qui est compliqué en 1989, c'est que on avait l'impression que le camp des réformateurs était en train, on va dire, de gagner dans le pays. On avait l'impression que c'était lui qui allait, on va dire, mettre les choses en route. Et les débats et la répression de Tiananmen a finalement signé la victoire des conservateurs.
Jean-Luc Domnac, l'histoire du communisme chinois à partir de la prise du pouvoir de Mao est émaillée de massacres et d'un nombre extrêmement élevé de morts. Comment replacer Tiananmen dans cette litanie des victimes du communisme chinois ?
Je vais vous répondre, mais auparavant, il se trouve que j'ai beaucoup connu deux personnages qui ont été très importants. D'une part, j'ai connu Hu Yaobang, qui était un communiste comme on n'en croyait pas. On picolait. On picolait, il n'y a rien d'autre. J'arrivais dans son bureau, il disait voilà, il y avait
trois bouteilles.
Vous voulez
dire que d'habitude, les communistes ne picolaient pas ?
En tout cas, pas en public, si je puis dire, on va dire. Et deuxièmement, un autre qui était Tian Shu, qui était comment dire, celui qui était, qui avait les contacts avec les gens qui n'étaient pas sympas, mais c'était un sympa qui était bien connu par les sympas. Voilà. Alors, c'était vraiment des gens tout à fait extrêmement sympas, ceux-là. Et c'était donc une différence, je dirais, vraiment une différence de façon d'être, vous comprenez ? Alors ça, c'est la première chose. Alors, deuxièmement, c'est simple que le communisme en Chine, comme c'est des massacres, hein, les massacres et les colonies de pénitentiaires, si vous voulez. Et donc, par exemple, pour ce moment-là, je fais des recherches sur les camps de travail. Il y a vraisemblablement 4 à 5 millions de personnes qui sont dans les camps de travail. C'est ça, il faut savoir. Et donc, je dirais, dites-moi que combien il y a, vous avez de personnes dans les camps, et je vous dirai dans quel régime vous êtes. Hein, voilà.
Et alors, dans ce contexte-là, pourquoi Tiananmen constitue-t-il une rupture par rapport, encore une fois, à une histoire qui a été jalonnée de répression ?
C'est-à-dire que là, pour la première fois, il y avait véritablement des gens, j'allais dire des gens sympas. Il y avait des communistes qui étaient, des communistes pensant qu'ils pensaient à être au peuple, véritablement.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que pour la première fois, le régime a eu peur, alors que sous Mao, par exemple, il n'a jamais redouté d'être renversé ?
Le régime a eu peur. Et je crois que Deng Xiaoping a eu peur lui aussi, et qu'il n'a pas hésité à faire donner la troupe. Et c'est ça véritablement qui fait sa force, parce qu'il a fait nettoyer la scène, et ensuite, ayant la paix politique, il a fait ce qu'il estimait devoir faire, c'est-à-dire relancer l'économie.
Pour replacer cet épisode dans son contexte, Anne Kerlan, l'épisode de Tiananmen intervient à une époque où on se dit que le communisme à ses jours comptait dans le monde. À l'époque, il y a Francis Fukuyama qui publie un article puis un livre extrêmement important, La fin de l'histoire. Le titre est mal choisi parce qu'en réalité, ce que veut dire Fukuyama, c'est que la civilisation néolibérale a un boulevard devant elle et que les peuples vont se révolter, pas pour des raisons économiques, et c'est la spécificité de la thèse de Fukuyama, mais parce qu'ils veulent de la démocratie. Ils ont des pulsions, comme dit Fukuyama, timotiques, lesquels sont là pour asseoir la pulsion timotique. C'est l'idée qu'on a un amour propre, qu'on a une volonté de jouir de ses facultés démocratiques, et c'est finalement l'incarnation de ces manifestants de Tiananmen que vous avez connus.
Oui, c'est tout à fait, encore une fois, ces manifestants avaient l'impression de demander très peu, en demandant la liberté, la démocratie. Jean-Luc Domenac mentionnait Hu Yaobang. Tout a commencé à Tiananmen en commémoration de Hu Yaobang et de son décès. Donc c'était quelque chose qui, pour les étudiants et les manifestants de Tiananmen, était pour ainsi dire légitime. On n'était pas en train de manifester contre le pouvoir, on était en train de manifester en faveur des réformateurs, mais qui, encore une fois, à l'époque, étaient plutôt étaient dans le sens de l'histoire. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'au moment donc des manifestations de Tiananmen, il y a une visite très importante, qui est celle de Mikhail Gorbatchev. Et vous imaginez, en effet, la présence de Gorbatchev dans le contexte que vous mentionnez, ce contexte de vent de l'histoire. Il a probablement fait très très peur
Pourquoi
aux dirigeants chinois.
Expliquez-nous.
Pourquoi ? Parce que Gorbatchev, c'était vraiment le symbole de la fin de l'Union soviétique. 1989, c'est quand même aussi le moment où le mur tombe à Berlin et où l'Empire soviétique s'effondre. Et bien entendu, les dirigeants chinois ne souhaitent pas que cela arrive. Et puis, Gorbatchev arrive en Chine, c'est le premier dirigeant soviétique à être en Chine depuis très très longtemps. Et donc, c'est censé renouer, mettre en scène le retour des relations entre la Chine et l'Union soviétique à un moment où vous avez des étudiants qui manifestent dans la rue. Ça fait un peu désordre.
En quelque sorte, il sert d'anti-modèle François Bougon.
Oui, ça, en plus, ça a été vécu comme un affront par Deng Xiaoping. Le fait de qu'il voulait qu'on célèbre ces retrouvailles. Et en fait, la presse étrangère internationale est venue pour couvrir ça. Et au lieu de couvrir ça, il couvre les manifestations étudiantes. Donc pour Deng Xiaoping, ça a été vraiment un moment presque de basculement aussi, de se dire, voilà, ils ont gâché la fête. Et puis, une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que ces étudiants se situent aussi comme les héritiers des étudiants du 4 mai 1919. C'est-à-dire ces étudiants patriotes qui se sont levés en 1919 pour protester contre le traité de Versailles. Donc, il faut pas oublier ça. C'est dans cette mémoire des étudiants de 89, c'est très très fort. Ils le proclament même un nouveau texte, un nouveau 4 mai 1919.
Et là aussi, dans l'histoire des manifestations étudiantes qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, alors là, il faut se méfier évidemment des comparaisons, mais Jean-Luc Domnach, on voit l'une des conséquences de l'élévation du niveau d'études avec ces illustrations concrètes qui sont donc cette demande d'une plus grande démocratie, c'est ce que vous avez bien connu à l'époque.
Oui, c'est ça, c'était la période... C'est la période où on pouvait véritablement parler d'à peu près tout. Et je me rappelle ce qu'étaient les cafés, par exemple. Il y a eu une période entre 1987 et 1989 où on pouvait rentrer dans les cafés et puis dire à la cantonade, j'aimerais bien discuter. Et aussitôt, tout le monde arrivait et on discutait.
Discuter de quoi ?
De tout. Absolument de tout. Et autant d'ailleurs des femmes que de la révolution, etc. C'était véritablement un moment où la parole, disons, s'était ouverte.
Et est-ce que l'on pouvait discuter du pouvoir du parti unique
puisque... Ah oui, ça, on avait commencé. Je me rappelle avoir eu des discussions à Shanghai dans l'hiver 1988-1989, où véritablement, à la fin, c'était terminé finalement, on avait conclu que bon ben il fallait on laisserait encore des communistes au pouvoir, mais pas tous. Et puis en plus, il y aurait des socialistes. Et puis il y aurait aussi quand même des démocrates. Et puis tout ça fait quand même, il fallait faire d'abord un voyage dans les démocraties pour voir ce qu'elles valaient vraiment, etc., etc. C'était l'ouverture à la discussion.
Anne Kerlan, quel était le modèle de ces étudiants protestataires à l'époque?
François Bougon a mentionné tout à l'heure le mouvement du 4 mai 1919 et c'est effectivement très important. C'est-à-dire que Tiananmen, les événements de Tiananmen s'inscrivent, je dirais presque, dans un rituel politique propre aux étudiants chinois. Le mouvement du 4 mai 1919, il faut le comprendre, est un mouvement qui a été tout à fait intégré dans l'histoire communiste. C'est un mouvement fondateur de la nation chinoise moderne. C'est un mouvement qui a à la fois sa dimension nationaliste, puisque c'est un mouvement qui est né en réaction au traité de Versailles et à la façon dont la Chine avait été maltraitée, si je puis dire. Et puis, c'est aussi un mouvement qui est pour la démocratie, pour la science, pour la modernité à l'occidental. Et donc, le modèle du mouvement du 4 mai 1919, qui est célébré par le Parti communiste chinois, est vraiment très important pour ces étudiants. Et puis, il y a eu d'autres mouvements par la suite, en Chine, auxquels ces étudiants peuvent se référer. Alors, un petit peu avant 1989, par exemple, la mort de Zhou Enlai, et puis avec toutes les commémorations qui ont suivi, ce qu'on a appelé le printemps de la démocratie, avec ces dates de Bao partout dans Pékin, sont autant de moments auxquels peuvent se référer les étudiants.
Les Dazibao, comme on disait en
France. Les Dazibao, voilà.
C'est-à-dire ces journaux sur les murs. Mais à l'époque, comment voyait-il ces étudiants le passé récent du Parti communiste chinois, le grand bond en avant, la révolution culturelle? Était-ce dans les mémoires ou bien leur lutte était-elle beaucoup plus dirigée vers le présent?
Alors, il y avait eu, à partir aux alentours de 1980-1981, on va dire une forme de procès de ce qui s'était passé sous la révolution culturelle, assez officielle. Et donc il y avait, on va dire, l'émergence d'une mémoire. C'était encore assez peu public. Et en particulier, on parlait très 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 peu de la révolution culturelle et de ce qui avait pu arriver à chaque personne, aux familles. Le grand bond en avant était pour à ce moment-là, et en particulier ce qui s'est passé pour les droitiers, absolument tabou. Il n'y avait pas encore beaucoup d'articles, d'informations qui circulaient, mais par contre, je pense, et ça Jean-Luc Domenac pourrait le dire, plus en interne, les gens commençaient à parler de leur expérience.
Jean-Luc Domenac.
Oui, les gens qui commençaient à parler, vous voulez dire de la...
À commencer par Xi Jinping,
voilà.
Qui avait directement connu donc l'actuel dirigeant chinois, a lui-même expérimenté, lui et sa famille, ce qu'était la répression maoïste.
Oui, enfin, il y a pire quand même. C'est pas,
il y a pire, il est
vivant. C'est pas lui qui a été le plus affreusement traité, ce qui est d'ailleurs peu connu. J'ai fait j'ai fait des recherches récemment sur l'histoire de Xi Jinping. Xi Jinping est balancé par son père, qui était un homme, Xi Jong-sun, un personnage tout à fait considérable, et il est envoyé à faire le tour un petit peu de la Chine et apprendre un peu la politique, et il s'aperçoit que véritablement il y a à la fois une véritable soif, disons, de discussion, etc. Et il a fallu que son père le remette dans le droit chemin, parce que lui-même commençait à parler un peu trop.
Et vous, Anne Kerland, comment pouvez-vous nous restituer ce qui s'est passé à l'époque en Occident ? Parce que là aussi, il faudrait raconter l'histoire des relations de l'Occident avec la Chine, la période maoïste pour certains intellectuels occidentaux, la manière dont le choc a été sévère lorsque, par exemple, Simon Leys, dont on peut peut-être dire quelques mots, a expliqué, ce sinologue, comment ces occidentaux qui étaient béats devant le maoïsme étaient au mieux des idiots utiles du régime.
Oui, Simon Leys, dont le nom, c'était un nom de plume pour Pierre Ryckmans, c'est un très grand sinologue et homme de lettres qui avait écrit Les habits neufs du président Mao pour dénoncer ce dont il était témoin depuis Hong Kong, c'est-à-dire les massacres de la révolution culturelle. C'est vrai qu'en France en particulier, on a eu une certaine Mao-mania qui a duré en particulier dans les années 1960. Après, au moment de Tiananmen, c'est une autre génération. Je pense que la France, en tout cas, a vu les événements de Tiananmen avec énormément de sympathie. On a d'ailleurs accueilli après en France un certain nombre d'étudiants exilés, et c'est une façon de le montrer, cette sympathie.
Et les relations justement avec le régime chinois en France, aux États-Unis, quelles ont été les conséquences de cet épisode de Tiananmen, Anne Kerland ?
Très honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grandes conséquences. Je dirais même que malheureusement, ce qui a commencé à intéresser à ce moment-là les pays occidentaux et n'a pas cessé, c'était bien plutôt la Chine comme un grand marché économique à conquérir, et les questions politiques et de droits de l'homme ont été mises véritablement sous le tapis.
Mais au fond, on a l'impression qu'il y a une sorte de préjugés sur la Chine qui dure. On peut penser au livre de Perfide, Quand la Chine s'éveillera. L'idée que finalement, la Chine est un pays trop grand pour être une démocratie, qui est une idée que certains dirigeants occidentaux ont du mal à se sortir de l'esprit.
Oui, et puis la Chine est la première à faire bien connaître cette idée-là. Ça arrange bien les dirigeants chinois de laisser croire que eux seuls peuvent, on va dire, mettre l'ordre dans un pays pareil. Non, et puis la Chine intéresse parce que voilà, quand vous avez un marché d'un milliard et quelques de personnes, c'est quand même du pain béni pour l'économie.
Juste une parenthèse, puisqu'on est à France Culture, il y a un livre tout à fait extraordinaire qui est écrit par un diplomate, Claude Martin, qui a été en Chine pendant toutes ces années-là et qui raconte bien ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Et c'est, je crois, à peu près ce qu'un diplomate peut faire de mieux.
Mais alors qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il
a vu ? Il a expliqué qu'il a fait ce qu'il pouvait pour maintenir les... qu'il a fait ce qu'il pouvait pour... comment dire, discuter, avoir des relations avec toute la Chine, et que, comment dire, les dirigeants français, eux, s'accordaient surtout à faire, étaient surtout intéressés par de l'argent et des bons rapports avec
de
les Américains.
De l'argent,
c'est-à-dire
de la coopération
voilà,
économique.
Voilà, de la coopération économique.
François Bougon est sur la manière dont la Chine et les dirigeants chinois vont communiquer sur la question des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas Tiananmen, il y a aussi la situation au Tibet, il y a la situation des Ouïghours, cette minorité turcophone musulmane. La Chine est en proie à une répression forte qui n'a fait en fait que grandir.
Oui. Elle ne fait que grandir, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Il y a le discours de très très présent sur la volonté de dire que les valeurs universelles ne s'appliquent pas à la Chine. Et là, on n'est plus avec Fukuyama, on est avec Huntington sur cette idée qu'il y a des
Samuel Huntington,
voilà, qui avait théorisé le choc des civilisations. Et donc, il y a cette idée de plus en plus présente dans l'idéologie chinoise de promouvoir les civilisations. Vous avez des grandes civilisations historiques dans le monde. Vous avez l'Égypte, vous avez la Grèce, etc. Et toutes ces civilisations ont leur propre modèle. Et donc, face aux valeurs universelles qui sont, selon Pékin, promues par les Occidentaux, il y a ce contre-discours, cette bataille culturelle qui met en avant ce concept de civilisation.
Mais alors, précisément, c'est ça, en fait, la spécificité de la doctrine de Xi Jinping, qui est à la fois un mélange de communisme, je crois que dans le communisme, ce qu'il a retenu surtout, c'est le parti unique, et de nationalisme.
Oui, oui, oui. C'est un mélange à la fois de communisme, marxiste-léniniste, de maoïsme des années 50, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis cette mise en avant, je vous dis, de ce concept de civilisation. Et on en revient à cette promotion des valeurs traditionnelles chinoises. On assiste aujourd'hui quand même à une captation de l'héritage traditionnel de l'Empire par des gens qui, en 1919, remettaient en cause cela.
Anne Kerlan, ça veut dire qu'il y a une tentative d'avoir une voix chinoise, comme on disait jadis. Bref, quelle est la manière d'envisager l'avenir de Xi Jinping et des actuels dirigeants chinois ?
Alors, moi, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, cette idée d'une voix chinoise, elle est tout à fait prégnante et dans tous les domaines artistiques, culturels, politiques. Et puis,
qu'est-ce qu'elle signifie ?
Pour les Chinois, elle signifie qu'ils ont trouvé leur place dans le monde et que cette place est, on va dire, à l'égal, voire supérieure à la civilisation occidentale. Et c'est donc pour eux une forme de revanche par rapport à ce qui a pu se passer au 19e et 20e siècle, au moment où, au contraire, l'Occident, par des traités inégaux, avait vraiment humilié la Chine.
Et alors, c'est le bouleversement, François Bougon, parce que jadis, on disait qu'on avait affaire à un géant économique, mais un nain politique et militaire. Sur le plan militaire, on n'en est plus du tout là aujourd'hui. Et il y a notamment dans la presse américaine énormément d'articles sur la puissance de l'armée chinoise, peut-être. Pouvez-vous en dire quelques mots ?
On assiste depuis 2008, depuis la crise qui a frappé les pays occidentaux, la crise des subprimes qui s'est propagée aux États-Unis et en Europe. Et parallèlement, on assiste à une montée en puissance de la Chine, à la fois dans le domaine économique, militaire, et puis aussi culturel. Et donc, c'est ce qui inquiète de plus en plus les États-Unis. On assiste, je pense, aujourd'hui à un moment charnière où à la fois les Européens et les Américains commencent à se dire qu'il faut traiter autrement la Chine. Alors c'est fait de différentes manières. Les Américains sous Donald Trump le font de manière beaucoup plus agressive. Ils ont commencé par la question commerciale. On a vu hier Mike Pompeo avoir un discours très très fort sur Tiananmen, en demandant au régime chinois de dire la vérité, en fait. Donc on est dans cette confrontation. Je pense que certains évoquent une nouvelle guerre froide. On peut parler de nouvelle guerre froide, en effet.
Parce que là aussi, il est probable qu'il y ait une instrumentalisation politique par les Américains de Tiananmen. Il y a d'autres faits en matière de droits de l'homme qui dérangent moins peut-être le gouvernement de Donald Trump, Anne Kerlan.
Tout ce qui concerne justement les droits du travail, pour ce qui concerne la situation des Ouïghours, pour le moment, les Américains, sauf les universitaires impliqués, n'en parlent pas beaucoup. La question
taïwanaise.
Cette minorité
musulmane
dans le Xinjiang.
Avec on parle de 800 000 personnes, 1 million de personnes dans des camps actuellement, ce qui est un
million,
chiffre inimaginable.
Dont beaucoup, beaucoup sont ce qu'on appellera très rapidement des intellectuels, c'est-à-dire les têtes pensantes de cette soi-disant minorité, qui sont donc ceux qui, justement, par leur culture, par leur connaissance de l'histoire de ce peuple, pouvaient aussi permettre une transmission.
Jean-Luc Domnac, ça, c'est une évolution sensible par rapport à la Chine de Mao. Ça veut dire qu'il y a une attitude différente vis-à-vis des minorités.
Ah, vis-à-vis des minorités et vis-à-vis de tout ce qui pense différemment. Et je crois que c'est une performance extraordinaire qu'il ait réussi à imposer, disons, une apparence, disons, une apparence d'obéissance, disons. Donc, je vous dis tout de suite mon avis. Je crois que c'est impossible à durer, ça ne durera pas. C'est la Chine, quand on la connaît, quand on la travaille, est un monceau, disons, de différences et de divergences. Je crois que véritablement, il a réussi ce qu'il a réussi déjà et quelque chose d'extraordinaire.
Ce que Xi Jinping a réussi.
Ah oui, ce que Xi Jinping a réussi est extraordinaire. Il me semble absolument impossible que cela dure très très longtemps.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Kerland, même si vous n'avez pas de boule de cristal?
Je suis plus inquiète. Je suis plus inquiète parce que il a réussi à maintenir un équilibre entre effectivement les différents mouvements. Il existe des mouvements de contestation, mais qui sont souvent localisés et qui sont d'une certaine façon tellement éparpillés que il n'y a pas de possibilité de faire masse, et ça fait partie, je dirais, de l'habileté du pouvoir en place aujourd'hui en Chine de réussir à réintégrer ces mouvements pour en faire son propre miel, voire par exemple des réformes anticorruption qu'il va récupérer. Et puis je suis inquiète aussi parce que le reste du monde semble s'accommoder fort bien de ce que fait Xi Jinping, voire y voir une possibilité politique.
Votre point de vue, François Bougon?
Moi, je pense qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis persuadé qu'on vit un moment de changement, un moment charnière. Je suis pas sûr que... Je pense que je suis persuadé que les pays occidentaux ont changé d'opinion sur la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de trouver une nouvelle manière. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas forcément les droits de l'homme, mais en tout cas, d'un point de vue économique, on voit que les Européens ont enfin compris que la naïveté n'était plus de mise.
Peut-être un dernier mot, Anne Kerland. On parle beaucoup de soft power russe. Soupçonne à tort ou à raison les Russes de se livrer à toute une série de tentatives dans ce domaine. Ça existe en Chine?
Oh là là, oui, beaucoup. Je prendrai juste un exemple que je connais bien, c'est celui du cinéma. Si vous voyez ce qui se passe actuellement dans le domaine cinématographique avec des blockbusters chinois, mais coproduits ou produits aussi par les Américains, on voit comment petit à petit, finalement, par la mythologie cinématographique, finalement, cette fameuse voix chinoise est en train aussi d'arriver.
Merci à tous les trois de nous avoir donné votre point de vue sur la Chine d'hier et d'aujourd'hui. François Bougon dans la tête de Xi Jinping chez Actes Sud. Anne Kerland, combattante de la liberté chez Fayard. Merci également à Jean-Luc Domnac.